Bonjour à toutes et à tous. Depuis des décennies, la moto s'affiche à l'écran dans toutes les situations, que ce soit dans des road movies qui nous invitent au voyage, ou tentatives de record de vitesse, ou aussi de course-poursuites détonnantes qui nous en mettent plein la vue. Aujourd'hui, au menu du magazine de la moto de Campus Lille, c'est la dernière séance. Mais à l'inverse de la chanson interprétée par Eddie Mitchell, cette fois-ci, le rideau va se lever pour la toute dernière émission de cette saison radiophonique 2024. Et pour parler cinoche et moto avec nous, six motards passionnés des Alpes Obscures. On commence avec Luc. Salut.
Salut.
Pourquoi ça te fait rire?
J'aime bien ton intro, c'est rigolo.
J'essaie de. Et donc, Luc, oui, donc on va parler. Vous avez choisi chacun un film. Hein, voilà, on va essayer de représenter un peu le.
Tu m'as dit, l'ami, choisis un film où il y avait des motos. Tout de suite, j'ai pensé à Easy Rider.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que quand j'ai vu ce film-là, très rapidement, c'était à la séquence du spectateur. Je ne sais pas si vous dites
ah
que
ça. Ah oui, tu
ça
me souviens.
Passait.
Ouais, c'est vieux. Ah, hein.
Ouais, il devait y avoir deux chaînes à l'époque.
T'avais quel âge?
Je devais avoir même pas une dizaine d'années, hein, même
non,
moins
non,
que ça. Ouais.
Justement, c'est très important.
Et donc, c'était des petits morceaux, des petits extraits qui passaient à la télé. Hein, ouais. C'était le dimanche à midi. Et quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a mis une claque. Mais franchement, j'ai dit, putain, quand je serai grand, j'aurai une moto et j'irai faire le
quand
tour
quoi,
du monde.
Quoi, tu vois, il faut pas grand-chose. Hein,
après, quand j'ai vu le film quand j'avais 18 ans. Ouais. Je suis allé le voir dans un cinéma. Et là, j'ai compris autre chose. Un message dans le film que j'avais pas compris quand j'étais gamin. Ouais.
Bon, voilà, on va vite faire le sommaire. Bon, on va aussi passer avec Michel. Michel Wozinski, bonjour.
Ouais, bonjour
Michel. Tu vas nous parler de
Quadrophenia, ce film magnifique qui se passe à Londres et à Brighton, où on va voir une opposition entre les mods et les rockers.
C'est quoi les mods?
Alors, les mods, c'est des gens qui roulent avec des scooters délirants sur lesquels ils ont monté des phares supplémentaires, des rétros supplémentaires, et ils s'habillent très très bien. C'est ça les mods.
C'est des fils à papa.
Non, pas vraiment, non. Non, ce ne sont pas des fils à papa. Ce sont des gens, des jeunes londoniens
C'est les mods et contre les rockers, hein.
Ouais, c'est contre.
Il va y avoir cette fameuse bagarre là sur l'île, sur la plage de Brighton.
Ouais, hein. Sur la plage et dans la ville. Enfin, c'est un grand moment de cinéma.
Oui. Bon, on en parlera tout à l'heure.
Sur la musique des Who.
Oui, voilà. Et la musique des Who, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, en troisième. Alors là, la séquence. Alors, c'est Jean-Yves. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors toi, tu vas nous parler de If.
Alors moi, j'avoue franchement
que j'ai été surpris parce que je connaissais pas le film.
Je suis un boomer et justement, je suis assez vieux pour avoir connu If, pour l'avoir découvert justement dans mon adolescence. Et là aussi, comme Luc, c'est ce qui m'a décidé de faire de la bécane. Enfin, j'étais déjà très mécanique avant, mais...
Il est bizarre ce film, Jean-Yves?
Non, il n'est pas bizarre, c'est un film... justement, il est quand même un peu hors des standards du film motard, parce que la bande-son, que je trouve tout à fait délirante, c'est pas du rock, c'est du grégorien.
Ok, tu vas nous en parler tout à l'heure dans cette émission. Voilà. Allez, ouais, Christophe. Alors, Christophe qui a choisi donc Burnout.
Burnout. Alors, je ne suis pas au bord du Burnout. je suis cinéphile et donc j'aime bien la technique au cinéma. Et je trouve que là, la moto, elle est vraiment mise sous son grand angle sur un circuit de superbike. Mais c'est surtout suivre le personnage et une vision subjective de la descente aux enfers du personnage qui va mettre ses talents d'apprenti pilote. Il veut être pilote de course en superbike, mais il va le mettre au service des truands.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc, on va suivre le Go Fast avec lequel il va essayer de mener sa vie.
Voilà, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Voilà, on va pas terminer parce qu'on a encore Yves Coutel. Mais alors, lui, il téléphone parce qu'il est malade, il devait être dans les studios. Yves, bonjour.
Bonjour.
Apparemment non, ça va pas.
Donc voilà, si, je vais vous parler.
Donc tu vas nous parler de Bike Riders.
Ouais, ouais. Exactement. Donc c'est un peu dans la. Bon, là, on va voir un petit peu la jeunesse des bandes de motards telles qu'elles se sont créées aux États-Unis. Et ça fait un peu écho aussi au livre de Lovenbrook aussi, Nous rêvions juste de liberté, qu'on avait décrit. Et Bike Riders est sorti l'année passée. J'ai un peu parlé des deux déjà au départ. Et je trouve que c'est un très beau film. vraiment qui filme très bien. C'est parti d'un bouquin, donc c'est une histoire un peu vraie. Et ça, la bande, là aussi, la bande son est superbe, quoi. En fin de compte, dans les films là donc, qu'on vient citer, il y a souvent une superbe bande son aussi en même temps derrière, avec des superbes musiques, hein. Donc on passe des ou là, on passe dans les musiques des années 60-70, et c'est vraiment pas mal. L'image est vraiment bien. Et je trouve que c'est bon, c'est vraiment un film moto, okay. Motard. Quoi.
Bah écoute, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, voilà.
Et toi, l'ami, tu vas nous
alors,
parler
moi,
de
j'ai
quoi,
choisi, moi, j'ai choisi ce film que j'aime bien. C'est Burt Monroe, voilà. Donc, vous savez, bah, vous connaissez l'histoire. Hein, c'est le personnage qui va aller battre un record sur le lac de Bonneville, dans l'Utah, aux USA, hein, avec une Indienne. Hein. Qu'il a préparé, enfin qu'il a bricolé, et donc là j'ai revu le film hein, pour l'occasion, hein, et c'est ça, moi pour moi ça reste toujours quelque chose d'assez fantastique, voilà, l'histoire est belle je trouve, et puis bon bah voilà, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, voilà. Alors, on va terminer cette émission. Donc, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. Et donc, cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Toupal. À la technique, c'est le number one des pilotes d'émission, Laurent. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. À tout de suite.
Man.
Bon voilà, bah, tout le monde reconnaît cette musique.
Ah moi là je suis en train de voyager là.
Ah, tout le monde peut-être pas les jeunes peut-être, ils connaissent pas.
Ah hein. Oh, si, j'abuse pas quand même. Moi je suis assis sur la moto là avec derrière la route 66. Ah ouais, je suis à fond dedans. J'adore. Merci Laurent, c'est trop beau.
Ah, ils sont deux, hein, ils sont deux sur le.
Ils sont deux, ouais. Mais ils sont,
la Highway, voilà. Là. C'est l'aventure, hein, c'est la c'est le road movie. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est la légende même du road movie à moto. Donc on parle de Easy Rider, bien entendu, qui a été réalisé par Dennis Hopper en 69. C'est le premier film d'ailleurs de Dennis Hopper et il a écrit le scénario avec Peter Fonda. Alors l'histoire, elle est simple. Hein. C'est deux jeunes motards, Wyatt et Billy, qui décident de quitter Los Angeles après avoir vendu une bonne quantité de drogue, tu vois. Hein, donc c'est pas du tout moral comme film, hein, déjà. Et avec la thune, ils s'achètent deux bécanes et ils vont traverser les États-Unis pour aller à la Nouvelle-Orléans au carnaval, et donc du coup, bien sûr, en traversant les États-Unis. Donc ils sont sur des shops magnifiques et sur la route, ils rencontrent notamment une communauté hippie avec qui ils partagent un moment, notamment deux jeunes filles. après ils repartent, voilà. Ils se joignent à un défilé sans autorisation et du coup ils sont arrêtés par la police locale. Et donc ils sont en cellule forcément et ils rencontrent George, un avocat, défenseur des droits civiques, voilà, oui. Qui est joué par Jack Nicholson. Il est excellent.
Hein,
tu sais que ça a failli, normalement c'était pas lui au départ, sauf que l'acteur prévu, il avait pris de la drogue et il s'est pris la tête avec Peter Fonda. Et donc il l'a jeté pour prendre Jack Nicholson. Et ben il a bien fait, franchement.
Ah ouais. Et puis, c'était après Vol au-dessus d'un nid de coucou. Parce que Nicholson était déjà connu pour ça.
Ouais,
là.
Déjà.
C'est pas sûr.
C'est 69 là.
69.
Hein. Ouais. Je sais pas. Faudrait on gardera.
Et il est avocat dans le film.
Il est avocat, mais des droits, défenseur des droits civiques quand même. Tu vois, c'est un marginal par rapport à l'Amérique.
Il est complètement bourré hein, quand ils sont dans la cellule. Hein.
Et il est en train de, il est en dégrisement.
En dégrisement.
Oui. Voilà. Et du coup, finalement, tu trouves trois marginaux quoi. Tu vois, les deux motards, hein, et cet avocat qui, bon, un fils de bonne famille, mais qui finalement est aussi marginal par sa façon de vivre, parce qu'il aime bien se défoncer à l'alcool, et puis aussi parce que c'est quelqu'un qui croit au droit civique, si tu veux. Et donc voilà, c'est l'idée du film. Donc apparemment, ça serait Peter Fonda. Alors, c'est pas sûr, parce que t'as plein de sources différentes qui disent des choses, on se demande des fois. Mais ça serait Peter Fonda qui appelle au téléphone Dennis Hopper, il se connaissait déjà, et dit voilà, j'ai une idée, ça serait deux mecs, des motos, du sexe, de la cam et des bouseux en pick-up qui les flinguent à la fin.
La vache,
c'est l'idée
du scénario.
Tu coupes tout à fait le suspense.
Et Dennis Hopper dit putain, mais c'est vrai, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Mais après, finalement, il dit bah non, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est pas lui. Enfin, ils sont embrouillés pendant des années, ils sont plus parlés à cause de ça. Ouais. Alors, mais en fait, on comprend pourquoi. Au début, le film il a coûté 350 000 dollars, d'accord ? Ce qui est pas beaucoup hein, pour un film. Et finalement, quand il est sorti en compétition au Festival de Cannes le 13 mai 69, ce fut un triomphe et il remporte le prix de la première œuvre. Il est sorti après aux États-Unis en juillet. Donc là, les avis sont un peu plus partagés parce que tu sais que Captain America, quand même, c'est un symbole, quoi. Je veux dire, ils attaquent le symbole américain quand même. Hein. C'est un peu dur, quoi. Et ben, le film est remboursé en un an. Il rapporte 20 millions de dollars. Et au final, il remportera 60 millions de dollars, 40 fois l'investissement.
Incroyable, hein.
Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de Jack Nicholson, en 70, donc un an après, il aura l'Oscar du meilleur acteur pour un second rôle. Franchement, c'est là où il est vraiment reconnu, ouais. c'est la consécration.
Bon, ça finit mal hein, quand même pour Nicholson.
Ça finit mal, bah oui, parce que bah, justement, les bouseux dont il parle tout à l'heure, Peter Fonda, ils n'aiment pas la différence, ils n'aiment pas les marginaux.
Oui, il faut revenir sur ce point-là, hein, parce que c'est l'époque des années
68, 9, 70,
hein,
ouais, 68,
où c'est les hippies, hein, et puis...
Et là,
les gens
sont dans l'Amérique profonde.
L'Amérique profonde,
voilà,
hein,
où ils sont très réac.
Ils sont
très réac, voilà.
Et c'est mal vu, quoi.
Et c'est très très mal vu, bien entendu. D'ailleurs, ils sont obligés de camper, de dormir dehors, parce que aucun motel ne les accepte à cause de leur image, quoi. Tu vois, de jeunes voyous en moto, blouson.
Ils sont voyous, ils sont pas voyous, parce qu'en fait, dans le film, ils vont tout simplement aller prendre un petit café dans un bar. Hein,
ouais, c'est ouais dans, mais sauf qu'il y a des jeunes filles qui s'intéressent à eux.
Oui, bah, si parce qu'effectivement, on a vu les mecs à côté, les bouseux. Je comprends bien que les jeunes filles ils s'intéressent plus aux bikers que
aux motards. Justement, justement,
c'est plus bandant, quoi.
Eh ben ouais, ben justement, il faut pas toucher ni aux frics ni aux gonzesses des bouseux, parce que sinon, bah voilà. Et donc, il les retrouve.
Oui, Michel.
Il les retrouve à l'endroit où forcément ils dorment dehors, parce qu'ils peuvent pas avoir d'hôtel. Et puis, il les bastonne.
Il les massacre à la batte de baseball.
De batte de baseball. Voilà. Et puis, finalement, il y reste notre preuve ami.
Nicholson. Ouais.
Voilà. Alors, une anecdote encore. Le drapeau américain qui est porté dans le dos hein, de Peter Fonda sur son blouson a été vendu 89 000 dollars en 2007. Pour te dire que c'est devenu une légende du cinéma, quoi, ce film. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable.
Alors, je suis allé sur les sites hein, pour voir un peu les classements. En fait, ce film, il reste encore au numéro 1 des
films à moto.
Des films à moto.
Parce que c'est l'un des premiers. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il est arrivé dans les années 68. Il y a une particularité. La façon dont c'est filmé, c'est ce qu'ils appellent le nouvel Hollywood. C'est une autre façon complètement différente par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est devenu un style en fait qui ensuite s'est exporté aussi en Europe et dans le monde entier, cette façon de filmer. Mais c'est aussi parce que ça a apporté de la thune, quoi, si tu veux. Ça a aussi été un franc succès commercial. Et du coup, tous les producteurs d'Hollywood voulaient faire un film avec sur la contre-culture, tu vois, avec du sexe, de la drogue et de la liberté, quoi, si tu veux.
Parce que surtout, c'est la liberté, en fait.
Ça rapportait la liberté au sens des années 68, c'est-à-dire.
Ça libère la jeunesse d'une.
La contre-culture,
la société américaine qui était complètement coincée.
Conservatrice.
Il faut se rappeler aussi que c'était après mai 68 en France et que c'était un mouvement mondial.
Tout à fait.
Littéralement.
Tout à fait.
Ça s'est produit en Angleterre, ça s'est produit en Amérique, en France.
C'est après Woodstock c'est aussi ça, le mouvement de la jeunesse contre la guerre en Vietnam.
Contre l'establishment.
Tout à fait. Ouais. Et alors, ouais, je voulais te poser une question, Lamiche. Toi qui es un grand angliciste reconnu, est-ce que tu sais ce que ça veut dire au départ Easy Rider ?
C'est cavalier, la route.
Bravo. À l'origine, Easy Rider désignait un cavalier expert.
Oui.
Mais ça voulait dire aussi un cheval facile à monter. Celui qui monte, mais c'est aussi la monture. Dans les années 20, dans le blues des années 20, le Easy Rider désigne un homme sans scrupules, amant d'une prostituée qui vit de ses gains. C'est incroyable quand même.
Ils ont les mots.
Non, mais c'est, du coup, c'est, pas un, c'est ni un cavalier, ni un routard. Quoi. Et donc, on a posé la question à Dennis Hopper. Il a dit... ça veut dire quoi, Easy Rider ? Pourquoi ce nom du film, quoi ? Et lui, il répond justement que c'est une personne qui n'est pas un proxénète, mais qui vit au crochet d'une prostituée. C'est celui qu'elle aime et à qui elle donne son argent, mais qui ne le prostitue pas. Donc, tu vois, le Easy Rider, c'est à la fois le cavalier et le cheval, tu vois. Sex, drugs, en rock'n'roll, je te le disais tout à l'heure.
Ah, parce que tu m'as posé une question, moi je vais t'en poser une aussi. Combien de motos ont été achetées pour réaliser le film ?
Alors, normalement, légende dit qu'il y a eu 4 motos qui ont été achetées au département de la police de Los Angeles, des anciennes motos qui ont été modifiées par Cliff et un pote à lui qui s'appelle Ben Hardy. Ce sont deux Afro-Américains et qui ont transformé les motos en shop. Et notamment celui de Captain America. Ce sont des Hydra Glide avec des moteurs Panhead.
Une fourche démesurée.
Voilà, donc il a rajouté des tubes de fourche de 30 cm avec un angle de chasse de 35 degrés. Tu imagines le truc énorme.
Alors ça symbolise vraiment le chopper dans ces films.
Il n'y avait jamais eu de shop aussi extravagant, même en Californie. Et c'est ça qui
a déclenché une mode.
Et c'est devenu, devenu le symbole du chopper à l'outrance, quoi. Alors que la moto de Billy, elle a gardé le cadre d'origine parce que il savait pas bien conduire en fait. Hein. Donc ils ont fait un truc assez simple, pas qu'il se foute la gueule par terre. Ouais. Et que sont devenues ces motos ?
Ça a dû être vendu.
Elles ont été volées.
Elles ont été volées.
Les trois ont été volées avant même la fin du tournage. Ouais. Et la quatrième qui crame à la fin du film, apparemment, le technicien qui s'occupait des motos l'aurait récupéré, l'aurait retapé bien après et l'aurait vendu. Mais alors, il y a eu tellement de répliques que tu sais pas en fait le vrai du faux là-dedans. C'est devenu une légende.
Une légende, ouais. C'est bien ça. Et en fait, la liberté, ça a un prix. Ça finit mal dans ce film.
Alors ça finit mal parce que un héros, il peut pas mourir. Il peut pas vieillir.
Il peut pas vieillir. Tu vois, il meurt.
Non, il peut pas vieillir. C'est pour ça que ça reste un héros. Ouais. Parce que justement, il meurt à la fin. Il a pas le temps de devenir moche. Il est forcément beau et il reste dans la légende.
C'est pour ça que Johnny Hallyday n'est pas un héros. Je vais faire des amis. Là.
Non, mais c'est bon, pas alors, Johnny que t'as vu alors, à la fin. C'est une réplique.
Tu nous racontes comment ça se termine vite fait.
Ah bah alors, on l'a dit. Hein, on l'a dit. Ils sont en train de voilà. Ils sont allés au carnaval, ils rentrent, ils sont en train de rouler tranquillement et puis t'as deux bouseux voilà, en voiture, enfin en pick-up qui arrivent à côté et puis qu'ils se moquent d'eux parce qu'ils ont l'air crades, ils ont les cheveux longs, etc. Ah ouais. Et puis t'as Billy qui leur fait un doigt d'honneur et puis comme ce sont des bouseux qui sont forcément dans la campagne, ils ont forcément des flingues, en plus des Américains, t'imagines.
Ah oui.
Et donc il fait semblant de le braquer et puis manque de peau, il y a le coup qui part et donc Billy s'en prend une. Ouais. Alors Wyatt, il veut du coup, il va essayer de secourir.
Il fait demi-tour, oui.
Il va aller chercher des secours et puis comme ils peuvent pas laisser de témoins, et ben il s'en prend une aussi et puis c'est comme ça que sa moto explose,
voilà,
et qu'il meurt à la fin. Dans les bras d'une infirmière qui est très belle et qui pleure.
C'est pas tout à fait ça.
Ah non, je confonds, ça c'est une chanson de Renaud.
C'est, ouais, c'est pas c'est comme ça que ça se termine. Hein. C'est pas du tout. Mais enfin, ouais, ça aurait pu se terminer comme ça. Mais voilà, c'est une fin inventée. Voilà, bah oui, c'était donc. Bah oui, c'est vrai, ça reste quand même le film
l'emblème.
Mythique.
Hein, voilà. Ah oui, bah oui. Voilà. Sex, drugs, and rock and roll.
Voilà. Bon, on passe un morceau de musique et puis après, on va parler avec Michel Wozinski de
Quadrophenia.
Oh, alors là, attention, là, c'est en Angleterre. Hein.
Là, c'est en Angleterre.
En Angleterre. Ouais.
Non, allez, Brighton.
À Brighton. Ouais. Allez, restez avec nous et puis on se retrouve juste après le morceau de musique.
Here by the sea and sand,
spécial Cinoche aujourd'hui dans le magazine de la moto. Pour cette toute dernière émission de l'année 2024 avec Michel Wozinski. Michel, tu vas nous parler de Quadrophenia.
Quadrophenia, ouais.
Quadrophenia. Et bah, dis-nous tout.
Bah, Quadrophenia, c'est un film mythique. C'est un film mythique avec sur la musique.
Alors, pourquoi mythique?
Alors, pourquoi mythique? Parce que, aussi, parce que là, c'est quasiment une légende, ce film, en Angleterre, notamment à Brighton. Quand vous vous baladez à Brighton, jolie ville royale, il faut le dire, avec un palais royal complètement fantastique, qui a un look indien. Donc cette ville, elle est superbe, magnifique, vivante, mais quand même
c'est
la Côte d'Azur des Anglais, bien sûr. La ville, elle est très très belle, mais elle a été là dans le film, on y voit une bagarre phénoménale entre les mods, donc qui roulent avec des scouts délirants, et les rockers qui sont les motards. Donc en fait, dans ce film, la particularité du film, c'est que les héros du film sont pas les motards. Ce sont les mods donc, qui roulent avec leurs scouts.
Tu nous expliques un peu les mods, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc les scouts, comment ils sont équipés, les scouts?
Alors, il faut savoir que le film date de 1979.
Et puis aussi, les gens qui sont sur les scouts, ils sont en costard. Hein,
c'est ça. Alors en fait, ce film parle de la jeunesse londonienne, anglaise, de 1964. C'est pas tout jeune, ça fait 60 ans. Mais en fait, ce film-là, il reste vraiment contemporain parce que les jeunes cherchent toujours à se démarquer, à s'habiller autrement. On a tous vécu ça dans nos jeunesses. Et eux, ils ont des scooters. Alors, les Vespa, Lambretta, etc., hein, les marques de l'époque. Mais ils vont les customiser avec des phares. Ils rajoutent des phares, ils rajoutent des rétros. Hein, je vous montre l'image.
Ouais, c'est pas trop. Effectivement, il y a combien? Il y a sur le scooter, il y en a au moins une dizaine de phares.
Ouais, une dizaine de phares. Enfin, voilà, c'est
et
ça.
Et une vingtaine de rétros.
Vingtaine de rétros aussi. Oui.
Alors à l'époque 1964, comment ils sont habillés les ils ont pas de casque. Le port du casque n'était sûrement pas obligatoire. Pas de casque, pas de gants. Alors ils s'habillent très bien, les modes. Parce qu'ils veulent être modernes, ils veulent se différencier des rockers qui, eux, sont les motards un peu à l'ancienne.
Du blouson de cuir. Type,
blouson de cuir, un peu comme
Marlon
Brando dans L'Équipée Sauvage. Ouais. Hein. Et eux sont très très bien habillés, cravate, costard. Ils portent au-dessus de leur costard une sorte de parka verte kaki là, qu'ils utilisent quand il pleut, parce qu'en Angleterre quand même il pleut assez souvent. Donc voilà.
C'est pas peu de le dire.
Voilà. Alors ils font quoi les mods? Ils passent leur temps à écouter de la musique. Hein. Alors pas forcément du rock and roll parce qu'ils se veulent un peu plus. Ouais. Cependant, c'est la musique des Who qu'on va pouvoir entendre dans une soirée. Par exemple, où le héros du film, hein, le jeune Mods, le nom c'est Jimmy dans son
Jimmy.
Ouais, c'est ça. Et lui, il passe son temps, il bosse à la poste, hein, il a un petit employé, c'est un petit employé de la poste, il lit du courrier, enfin c'est pas terrible.
Dans
le sein, ouais, c'est merdique. Ouais. Et pour oublier tout ça, ils passent leur temps à faire la fête, à se faire beau, à faire leurs scooters les plus beaux possibles. Ils prennent des amphétamines aussi, il y a de la drogue puis ils boivent, forcément, on est aussi en Angleterre. Voilà.
Et du bon whisky. Hein.
Ouais. De la bière aussi, voilà. Un peu comme les rockers finalement. Et puis,
on n'est pas rien, hein. c'est à 10 ans de différence avec les Irradeurs, mais finalement,
c'est
on a ça. Toujours les mêmes ingrédients.
Régulièrement, ils se fritent avec les rockers.
Alors ça, c'est l'ennemi juré.
Ouais. C'est l'ennemi juré. Là, les motards.
Eux, les rockers, ils roulent en BSA, Triomphe.
Ouais, c'est ça.
Norton.
C'est ça, Triomphe, Norton, hein, c'est les vieux.
Ils ne roulent pas en scooter.
Les marques anglaises de l'époque. Quoi.
Ils se fritent très sévère parce que c'est un coup de chaîne de moto. Hein.
Ouais, alors donc, dans tout ça, il y a aussi une histoire d'amour puisque Jimmy, il est amoureux de Steph, une jolie mods, hein, parce que les filles sont aussi mods. Voilà. Donc, à l'occasion d'un week-end, tout le monde part à Brighton. Un défilé de scouts délirants, plus délirants les uns que les autres. Et puis, ils se retrouvent là-bas pour à nouveau faire la fête, etc. Et dans une soirée, on trouve l'un des mods qui est chef de bande et qui est admiré par tous, parce qu'il est plus grand, c'est un grand blond, très beau, etc. Et on le connaît tous, celui-là, parce que c'est devenu un musicien très célèbre, c'est Sting, qui le groupe Police, puis après sa carrière en solo. Mais c'est son premier rôle au cinéma. Son premier rôle au cinéma. Donc c'est, en fait, il est un peu l'idole des...
Son premier rôle, il est quel côté il est?
Il est Mods.
Ah, il est Mods.
Mods. Ouais.
Mods. Un mec en scooter, quoi.
Un mec en scooter. Un mec en scooter. Mais avec un super scooter.
Oui, je ne vois que. De toute façon, voilà. je ne le vois que de ce côté-là, moi. Il ne peut pas être au cœur.
Ouais, ouais. Oh, bah. Ouais. Donc, on le voit danser dans une boîte sur Louis des Kingsmen. Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau.
Louis.
Ouais, voilà. Et tout le monde fait comme lui. Tu sais, alors le jeune Jimmy qui voit que la lumière est sur. Face Ace, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, l'as, celui qui est vraiment l'as de tout le monde, eh ben, lui en fait il monte sur la rambarde à l'étage et il saute dans la foule pour se faire remarquer. Donc du coup il se fait virer de la boîte et il passe la nuit dehors dans un endroit où à un moment donné les rockers vont passer, mais ça va, il s'en sort plutôt bien. Voilà, donc c'est ce qui se passe d'abord à Brighton, et puis le lendemain il va y avoir une bagarre, je crois que c'est la plus belle bagarre que j'ai vue au cinéma, qui se déroule dans Brighton, d'abord sur la plage, et qui va opposer les Mods et les rockers.
Mais ça a été monté en épingle par des journalistes, hein, parce que finalement ils ont cassé que du mobilier, tu sais, des chaises longues.
Ils se sont cassés la gueule les uns les autres.
Non, mais il n'y a pas eu vraiment...
Si. L'avantage de la plage de Brighton par rapport à nos plages de la Côte d'Opale, c'est que c'est une plage de galets. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique de se battre avec des galets, il faut le dire, qu'avec du sable. Donc les galets volent. Il y a aussi des chaises longues. Le bois des chaises longues, c'est bien utile.
Et la police était un peu débordée parce que c'était la police locale. Ils ont dû appeler l'armée, je crois, pour... pouvoir
La police a été débordée. Alors, il faut savoir que le film date de 79, mais on parle de la jeunesse anglaise des années 64, des années 60. Hein. Et au début des années 80, c'est plus les Mods et les Rockers, c'est les Skinheads qui vont reprendre le flambeau pour aller se battre à Brighton.
À Brighton,
hein, cette jolie ville royale, bourgeoise.
Ah oui, c'est une bourgeoise.
C'est ça. Donc.
C'est comme une bagarre générale au Touquet, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Si on... Mais là, le problème du Touquet, c'est que c'est du sable.
Voilà. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que si vous allez à l'Escafé à Londres, à l'étage, au rez-de-chaussée, c'est le bar, le restaurant, et à l'étage, il y a les toilettes. Et sur tous les murs de l'étage, il y a justement des articles de presse de l'époque qui relate les histoires de combats entre Mods et Rockers.
Ouais.
Il y a encore une balade, hein, je pense, de l'Escafé à Brighton, tous les ans.
Bien sûr, à Brighton, quand on se balade dans cette superbe ville, moi, que j'aime beaucoup, il y a des tags, il y a plein de choses qui rappellent ce film mythique, Quadrophenia, sur cette musique des Who, avec des morceaux fantastiques, quoi.
Voilà. Donc ça se termine comment, ce film?
Pour le jeune Jimmy, ça se termine pas très bien, parce qu'en fait, du coup, après cette bagarre phénoménale, il y a un procès, il se prend une grosse amende. 75 livres, mais c'est 1500 livres aujourd'hui, tu vois, ça fait de l'ordre de 1500 euros. Quand il rentre chez lui, sa mère a découvert son stock d'amphétamine, donc ses parents le virent, donc il se retrouve dehors. Alors tu vas me dire, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Justement, il pleut des cordes, donc il est trempé, et puis quand même, lors de la bagarre, il a quand même réussi à concrétiser avec la fille dont il était amoureux.
C'est
la jolie Steph.
Ah, Steph.
Ouais. D'ailleurs, dans le film,
la belle Steph.
Il faut le dire, il y a un moment où il y a des slows et il va couper les slows, il va mettre My Generation des Who pour qu'elle arrête de danser un slow. Mais là, au moins, il concrétise. Et le lendemain, il veut la revoir, mais en fait, elle l'a quitté, elle est avec son meilleur pote. Donc, il déprime d'autant plus. Et il est un peu... il part avec son scooter sans trop faire gaffe et il a un accident. En fait, son scooter est percuté par un camion des postes. C'est quand même un comble. Donc, il a plus de scooter. Et il repart à Brighton. Il repart à Brighton pour retourner sur... un peu son aventure amoureuse, quoi, mais avec nostalgie. Et puis, En se baladant dans Brighton, il retombe sur les lieux où il y a eu la bagarre, là aussi où il a concrétisé avec la jeune fille dans une impasse. Et puis, en passant devant un grand hôtel, il voit le scout de Ace, donc de Sting en fait. Et là, il se dit, il doit être dans le coin. Et en fait, il voit Ace sortir comme un groom. Enfin, il est groom dans un hôtel et il transporte les valises des gens.
Il y a quelque chose qui va pas là.
Ouais, le mythe tombe. Ouais,
le tombe,
complètement.
Le mythe tombe. Ouais.
Et alors, lui, il va à l'entrée de l'hôtel pour quasiment insulter Ace. Et il lui vole son scooter.
Oui.
Il lui vole son scooter et il part avec sur les falaises de Douvres. Alors, c'est la scène finale du film. Et comme dans Thelma et Louise, il va tenter de se suicider et on voit le scooter qui vole et qui va se fracasser en bas de la falaise. Mais je vous raconte pas tout parce que
non,
je peux pas, sinon je dévoile.
c'est quand même un film de 79 quand même. Hein.
Ouais.
Bon, on le trouve encore, on peut l'avoir. Hein, quand, regardé non,
moi,
si
je,
on peut.
Moi je l'ai trouvé en tapant Quadrophenia film et je l'ai trouvé en VO. En version originale, parce qu'il faut le voir en anglais. Parce
qu'on apprend, en anglais.
On apprend des insultes en anglais comme fuck off qui répétaient inlassablement dans le film et d'autres. Et puis voilà, c'est vraiment un film magnifique.
Très bien, Michel. Ben écoute, c'est comme ça. Et c'est bon.
Oui,
c'est bon pour le film. Voilà. Alors après, jusqu'à maintenant, ça finit mal, les films. Easy Rider, ça finit mal. Quadrophenia, ça finit mal. Et après, c'est If. Ouais.
Qui finit mal également.
Ça moi, là, j'ai vu le film cette semaine. Et ça finit très mal. Mais on va d'abord passer un bon morceau de musique pour se mettre en condition pour pouvoir expliquer ce film If. Et c'est Jean-Yves qui va s'y coller. Voilà, à tout de suite. Voilà, Jean-Yves, après ça, je te verrai plus pareil. Là, j'ai mis. Ça m'a. Je me dis, mais Jean-Yves, finalement, il cache son jeu.
Non, justement. Non,
alors, If, raconte-nous.
If,
allez,
alors là,
69. Hein.
C'est en 69. Alors, justement, l'acteur principal, c'est Malcolm McDowell.
Oui.
Malcolm McDowell, vous le reconnaissez plus tard dans Orange Mécanique. Et là aussi, dans Orange Mécanique, vous avez des chants grégoriens parce que depuis des siècles, les chants grégoriens, ça prétend élever l'âme. Et donc, ce Sanctus, il ne passe pas tout le long du film. Il passe dans les moments très importants pour représenter la liberté, notamment quand il se balade à trois sur une baisse à Lightning, avec.
Alors, il faut attendre. Alors oui, alors la différence entre les deux films avec Easy Rider et Quantum of Solace, c'est que la moto est pratiquement du début jusqu'à la fin du film. Hein,
oui, avec l'acteur. C'est beaucoup.
Tandis que là, il faut attendre le milieu du film.
Exactement.
Pour voir apparaître une moto.
Bah oui, parce que quand tu repenses à ta adolescence.
Replante le décor, Jean-Yves, parce que ça se passe dans un collège quelque part en Angleterre.
Un collège de public school, c'est pas n'importe quoi.
Ouais.
C'est censé former l'élite de la nation. Et donc, comme à l'armée, d'ailleurs, les élèves sont embrigadés dans l'armée du collège, et c'est le formatage des élites anglaises. Et dans ce formatage, quelquefois, il y a des grains de sable.
Tu dis pas la discipline, hein ?
Je te citerai des exemples de discipline, de bizutage, de pas harcèlement sexuel, mais si quand même un peu. C'est le règne, un adjudant de base, le règne de la bêtise contre l'intelligence. Et les trois grains de sable sont Mike Travis, Wallace et Johnny. Et donc, c'est trois élèves qui détonnent parce qu'ils sont sargastiques, ils font du mauvais esprit, ils n'acceptent pas la discipline pure et dure imposée par les aînés, par les seniors. Les seniors, d'ailleurs, qui sont appelés dans le film Whips. Whips, c'est le fouet. Hein, c'est leur principal attribut, c'est de maintenir la discipline et de casser toute volonté ou velléité de rébellion. Et y a une fille aussi là-dedans, parce que sexe, moto et musique, c'est Christine Nona. Alors Christine Nona, le réalisateur Lindsay Anderson, cela serait bien tapé, mais hélas elle était mariée, donc ils n'ont pas pu faire, pour ne pas foutre la merde dans l'ambiance du film, il s'est dit « bon, je la laisse tranquille, elle est mariée ». Mais je veux dire que cette fille-là, parce que dans les pensionnats anglais de l'époque, c'est vraiment discipline, formation, celui qui a une oreille qui dépasse, on lui coupe, etc. Et donc, on voit dès la rentrée, c'est une fourmilière d'élèves, les plus petits étant assujettis aux plus âgés, les plus âgés assujettis aux seniors, eux-mêmes assujettis aux whips, aux garants de l'autorité. Et donc, ils reviennent de vacances, ils ont les cheveux longs, ils se font taper dessus parce que justement ils ont les cheveux longs, qu'ils se démarquent. Leur phrase type, c'est « le paradis est pour les élus et pas pour les obsédés du sexe ». Parce qu'évidemment, comme ça mélange, c'est le moment de la puberté et autres, ça commence à tripoter de ce côté-là. Donc... Il y a des problèmes parce qu'il faut aussi réprimer ce chose-là, parce que justement c'est un film très très religieux. Ce pensionnat, à chaque fois il y a une messe auquel tout le monde doit participer, tout le monde doit chanter. C'est pour ça qu'il y a ce chant grégorien Sanctus. Le film est bâti en 8 épisodes. Alors c'est assez amusant parce que à l'époque c'était quand même en 69-70. Il y a des séquences en noir et blanc. Et là, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi ils passaient quelquefois en noir et blanc, quelquefois...
C'est parce qu'il n'y avait plus de sous, je crois. C'était moins cher.
C'est,
je crois que j'ai vu ça quelque part. C'est une
déversion,
ouais.
Mais
oui,
c'est aussi dans l'ambiance
moins cher
du film.
De filmer en noir et blanc qu'en couleur.
Oui, hein. dans les séances religieuses, où ils sont tous à la messe, c'est souvent noir et blanc pour souligner l'austérité, le conformisme.
Pour être austère, c'est austère. Hein.
Oui, c'est très austère.
C'est le côté obscur.
Alors, évidemment, on assiste à toutes les brimades, à tous les formatages des jeunes qui doivent apprendre le nom des anciens, qui doivent les respecter. Il y a même un moment, une scène où tout le monde est sous la douche, sauf le whips, qui est dans sa baignoire d'eau chaude. Et la douche est eau froide pour tout le monde.
C'est pour punir. Non, c'est parce que c'est pour les trois élèves qui sont un peu...
N'anticipe pas quand même. Et donc, il y a un jeune, un junior, qui doit venir avec le bol de mousse à raser pour amener et passer la mousse à raser sur la gueule du whips. Et c'est vraiment l'esclavage des plus autoritaires sur les plus jeunes et toutes les brimades. Malcolm McDowell fait preuve quand même d'esprit de résistance. Manifestement, il leur fait comprendre à ces gens-là que lui, ça prend pas. Il a quand même un ton quand même un peu de narguer l'autorité. Et donc, première punition, c'est il doit se taper 2 minutes de douche glacée. Et il fait encore montre de nargue, il se tape 2 minutes de plus. Autre exemple de...
Et en Angleterre, il fait pas chaud.
Autre exemple de brimade, ils prennent un élève, un junior, par les pieds. Il le pend par les pieds, la tête dans la cuvette des toilettes.
Dans le chiotte, oui.
Donc c'est vraiment le...
Mais bon, tu vois un petit peu l'ambiance, donc ils en ont marre. Hein.
C'est pas Harry Potter.
Ils voudraient bien... non, c'est pas du tout. Ouais. Donc ces trois-là, ils voudraient bien avoir un petit peu de liberté, alors, tu vois. La liberté, qu'est-ce qui symbolise la liberté?
Alors, c'est... c'est la violence et la révolution sont des actes
purs. Et c'est aussi la moto. Mmh.
C'est aussi la moto, mais là, on n'y est pas encore.
C'est long.
Donc, il y a lecture obligatoire des écritures. On voit des cours quasiment... C'est un des cours donnés par le bishop, c'est-à-dire l'évêque, enfin bref, un curé, qui s'amuse à aller insinuer sa main dans la chemise des jeunes élèves et les tripoter. Enfin bref,
c'est des pervers. Hein.
Non, c'est pas des pervers, c'est des cléricaux, c'est tout.
Oui, voilà. Oh non, mais attends, quel film. Et non, mais attends, il y a tout là-dedans. C'est l'inverse des hirades, de toute
façon. Et donc, ouais. Là, justement, ça commence à en avoir marre. Et les deux personnages de Wallace et Travis profitent d'une sortie pour aller visiter un concessionnaire BSA. Alors là, c'est le...
Alors, 5 minutes de moto dans le film. C'est le
délire. Non, il y a plus que 5 minutes. Le mec monte sur la moto, il la démarre.
Dans le magasin.
Dans le magasin, il fait un tour dans l'atelier. Il y a son copain Wallace qui saute en selle et il se barre. Et il se barre. Alors là, justement...
Alors c'est une BSA 650 à mon avis, je crois.
Une Lightning. Lightning. Oui. Il y a une séance magnifique dans la campagne anglaise au soleil.
Ouais, voilà.
Ils sont sans casque, sans gants, sans rien. C'est la liberté. Et ils arrivent à un café.
Qu'est-ce que je vous avais dit.
Horse Café. Et Park Horse Café. Et là-dedans, on repasse en noir et blanc. Alors là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une serveuse, la fille, qui s'appelle... son nom d'actrice, c'est Christine Noona. Et il demande un café. Alors évidemment, il y en a un qui demande un thé. L'autre, pour la faire chier, Travis lui demande un café et avec du sucre, mais sans lait. Et puis, étant donné qu'il est quand même formaté par son milieu, il s'imagine qu'étant de classe sociale supérieure, il peut tout se permettre. Et donc, il saisit la fille et il lui roule un patin magistral. Aussitôt suivi par une baffe monumentale.
C'est une scène spéciale. La scène, elle est vraiment un peu...
Mais imaginez-vous de voir ce film quand vous sortez de l'adolescence. C'est le genre de truc, ça y est, on peut avoir de la transgression, on peut se permettre de se révolter. C'est magnifique. Mais enfin bon, je continue. Et donc, les deux copains sont sur la BSA. La fille est debout entre les deux, avec les bras qui font des ailes.
Quartier, oui.
Ah oui. Et donc, c'est un symbole de liberté. Alors, pour l'anecdote aussi, Travis ne savait pas très bien conduire et il roulait là sur une prairie d'herbe.
Oui,
ils se sont cassés la gueule. Enfin bon, ça c'est pour le film.
Voilà.
Mais moralité, cet épisode de liberté, il le paye très cher parce qu'il y a une séance de fouet, de cravache.
Ouais.
Alors... Les deux copains de Trévis se tapent quatre coups de cravache. Bah, attends, la cravache, c'est une badine, hein. C'est pas une cravache de cheval. C'est un truc long de 1,50 m. Et le mec court pour prendre son élan et pour taper. Et
on voit qu'il prend du plaisir. Hein.
Il prend du plaisir, bah, taper, c'est sadique. Hein.
Ouais, c'est sadique. Hein.
C'est l'armée, quoi. Donc, il y a Trévis qui s'en prend 10. Et en plus, comble de perversion, il est obligé de remercier le mec qui lui a fouetté. Donc là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et donc là, bah, c'est la révolte. Au cours d'une manœuvre, d'un exercice de manœuvre militaire, comme il dit, une balle placée au bon endroit peut changer la face du monde. Bon, ouais. Et donc, ils prennent des vraies munitions.
Oui, alors ils trouvent des munitions dans le collège. Là, je ne comprends pas bien la scène.
Si, c'est, hein, justement, c'est sous le... Et voilà.
C'est la fin du film, ça.
Non, la fin du film, justement, c'est un moment pour la fête de fin d'année. Il y a un général qui vient, il y a toutes les grosses villes, il y a les parents. Ouais. Et donc, comme ils ont été condamnés, parce que pour leur mauvais esprit, à ranger les caves de cette salle, ils découvrent justement l'armurerie, oui, l'ancienne armurerie de l'école.
Des mortiers, des mitraillettes, des stents,
etc. Et donc là, bah, ils décident à la sortie, ils foutent le feu. Donc le général qui continue comme si rien n'était, Et donc tout le monde évacue la salle. Et là, ils sont sur les toits de l'école, à tirer sur la foule.
Et alors, ils tirent pas sur la foule, ils tirent sur les élèves et tout.
Oui, ils tirent sur tout le monde.
Sur tout le monde, hein. Mais dans le collège, hein,
dans le collège.
Et on voit bien qu'ils prennent du plaisir à tirer, hein, au plus.
Ah bah oui, mais les autres, ils prennent du plaisir à résister.
Voilà. Ok.
Donc bon, bah, voilà. J'arrête là parce que
notre technicien Laurent nous fait des grands signes. D'accord. Voilà. Allez, ça c'est If. Alors on le trouve encore. Tu l'as en version originale.
Oui, je l'ai en version originale. On peut l'acheter 23 € sur Amazon.
Bon. Ben voilà, pour l'instant, c'est bien, c'est bon. Bon, on passe à un morceau de musique et après on retrouve Christophe pour Burnout.
Burnout, oui.
Hein, Christophe ?
On va pas faire de burn.
Et ça, c'est 2017, on remonte un petit peu dans le temps.
Oui, parce que c'est un des films les plus jeunes, là, du plateau.
Ouais, voilà. Allez, à tout de suite.
Et qui finit
après.
Pas mal.
Et qui finit pas mal. Si. Bon voilà, spécial Cinoche aujourd'hui pour cette toute dernière émission de l'année 2024 dans le magazine de la moto de Campus Lille. Christophe, on veut parler de Burnout.
Oui.
C'est un film sorti en 2017.
Oui, alors vous entendez la bande-son là.
Ah, c'est quoi cette bande-son là?
Alors minimaliste, répétitif, c'est du gros synthé. Ouais. Et en fait, c'est pour aller avec la caméra. C'est pour raconter l'histoire, en fait, on le voit du point de vue du héros, enfin du héros du film, Tony. Hein, donc tout à l'heure, dans le pitch, j'ai annoncé effectivement, il vit pour le superbike, il veut devenir pilote. Et on est plongé tout de suite dans l'action sur la course. Bon, manque de bol, il sert le moteur. Donc c'est déjà une première moto. Tout à l'heure, tu te posais la question.
Quoi,
c'est une première moto
qui flingue.
Oui. Bon. Ouais. Alors, l'histoire. c'est Tony qui vit pour devenir pilote Superbike, mais qui découvre que la mère de son fils, finalement, a une dette envers un caïd de la cité avec la pègre manouche. Et donc, on comprend qu'il a un besoin de se racheter, on ne connaît pas son passé, mais par amour, il va se mettre son talent au service des truands. Et donc, il va rentrer dans la spirale infernale du Go Fast avec la course le jour, puisqu'il prétend intégrer une écurie de course Patterson qui l'a repéré, et puis le Go Fast la nuit et le boulot alimentaire. Donc, il est pilote de Fenwick pour son boulot. Donc, ce Go Fast, il faut déjà dire que François Civil, qui joue le rôle de Tony, c'est pas un motard. Donc, il a dû passer le permis qu'il a eu un mois et demi avant de commencer le film. Bon, ceci dit, il se débrouille pas trop mal. Et on verra tout à l'heure, après, dans les scènes de moto, effectivement, la doublure de Serge. Donc, on voit le Superbike. Pourquoi le Superbike ? Parce que c'est une course très colorée. Le réalisateur a trouvé que c'était vraiment racé, la moto, la vitesse, l'angoisse. Et pendant toute la durée du film, on va suivre. En fait, on va être à côté de Tony, ce taiseux, magnétique à l'écran, le regard. Il fallait qu'il soit crédible également en physique. Donc, il a pris du muscle. Parce que finalement, c'est les sportifs, les gars qui roulent en superbike, et on est en empathie immédiate avec lui. Mais la pression, elle est mise par la musique et par les plans.
Ça, ce qu'on entend en fond, là, c'est la musique du film. Hein.
Voilà, tout à fait. Elle soutient complètement donc le déroulé de l'action, et on a des caméras dans le casque. On voit les yeux du pilote. On voit la sueur, on vit avec lui en fait l'épreuve auquel il est confronté, et donc il va essayer de se sortir de là. Évidemment, je vous raconte pas la fin, mais il va être ballotté, et donc il y a ces scènes de Go Fast. Alors, il y a eu des films de Go Fast à l'écran. Celui-là, il est particulièrement intéressant parce que c'est la façon dont ça a été filmé. Ça se passe près de chez nous, puisqu'en fait, il part de Rotterdam et il descend en région parisienne.
Généralement, c'est
donc
comme ça,
les tournages.
Les transports, tu sais.
Les tournages ont été faits sur l'autoroute A1.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, en matière de moto, qu'est-ce qu'on voit en moto ? La Panigale, qui est quand même la moto par laquelle il va faire toutes ses Go Fast. Une moto, une KTM, qu'on va retrouver dans la cité, qui va être cassée, et puis celle avec laquelle lui aussi il va avoir son accident. Alors, je vous propose d'écouter l'interview de Serge Nuc. Alors, Serge Nuc, on le connaît, c'est le chevalier de Groland, mais c'est surtout un pilote de course, un pilote qui s'est illustré dans le mototour, entre autres, et qui fait la doublure de Tony.
Qui a fait la casquette sur l'autoroute 1. Parce
alors, sont, ouais. Oui, alors là, en l'occurrence, oui, si, on peut parler de cascade, si tu veux. Il y a des cascades pour lesquelles il y a des cascadeurs. L'accident moto, ce n'est pas Serge Nuc qui l'a. Lui, effectivement, il fait la cascade de vitesse et il l'explique. Je vous propose d'écouter l'interview de Serge.
Dans Burnout, tu remontes la heure à contresens, à toute vitesse. Raconte-nous cette scène. Mais c'est la scène pour moi qui m'a demandé le plus de, pas de réflexion, mais de préparation mentale, parce qu'il y avait un vrai balai à réaliser. Il y avait 13 véhicules qui remontaient à contresens. Tout ça, c'était millimétré par des cascadeurs qui arrivaient avec un bon timing, sauf que la vitesse est multipliée par deux. Il y a ta vitesse à toi, il y a leur vitesse à eux, et tout ça, ça se passe très vite. Et quand tu l'as fait une fois, c'est pas une victoire, parce que tu sais que tu vas devoir le faire 5-6 fois pour changer les plans caméra et avoir toujours besoin, ce qu'on a besoin dans le cinéma, plusieurs axes. Et c'est une répétition de choses qui fait que ça a duré toute une nuit, et à 6h du matin, quand tu es encore sur la moto, il fait 3 degrés, tu es gelé, mais tu sais que tu n'as pas le droit de te déconcentrer parce que là, ça peut être fatal. Je ne savais pas comment ça allait se passer la veille, comment le balai allait être fait, comment les véhicules allaient arriver face à moi. Et ce que j'ai osé faire dans la nuit, parce que je n'arrivais pas à dormir, c'est écrire un scénar où j'avais mis des voitures en face, où j'allais passer au milieu. Je m'étais fait déjà ma répétition en espérant que le lendemain, le gars accepte, on va dire le règleur cascade. Il y a un gars qui dirige un petit peu tout ça. Je lui ai présenté mon plan. Il a dit, écoute, il n'y a aucun problème. On s'est juste mis d'accord sur les vitesses. Il voulait qu'on les fasse un petit peu à vitesse basse. Mais moi, je n'avais pas envie de me cailler toute la nuit à rouler à 50 km/h, donc j'ai demandé à augmenter les vitesses. Il m'a raisonné un peu à me dire non, de là, tu étais trop exigeant, tu verras qu'il avait raison. Donc, ça arrivait très vite en face, heureusement que je n'avais pas été au-delà. Donc, tout ça, on s'est réglé ensemble, mais ils ont accepté le projet que je leur ai donné. Et pour moi, du coup, ça s'est déroulé beaucoup plus facilement. Toute la nuit, j'avais imaginé mon parcours et il n'y avait plus qu'à le répéter le lendemain. Donc, c'était ce qui m'a donné le plus de fil à retordre dans le film. Sur une de tes scènes de circuit, ton personnage glisse au guidon d'une Panigale. C'est facile de tomber sur commande. C'est la première fois qu'on me demande ça. Ils m'ont pris pour un rôle, on va dire, qui est de pilote moto, mais pas forcément de cascadeur. Et là, c'était pour moi de la cascade, faire une chute. Ce que je leur disais, il y a du monde, il y a des caméras qui vont être allumées, il y a des réalisateurs, t'as quand même de la pression. Je me suis toujours battu contre des chronos et pour pas tomber. Et j'évite de tomber. Et là, on me demande de tomber. Je pense que je pouvais le faire. J'ai dit que j'allais tomber là, que la moto allait à peu près s'arrêter là. J'ai réussi à faire ce que j'avais dit, puisque la première prise, ça a été bon, et ça a été dans la boîte. Mais c'est clair que c'est complètement abstrait, quoi. De rentrer dans un virage et de savoir que tu vas te casser la gueule, mais c'était par contre bon à faire, parce que toujours pareil. C'est un circuit sécurisé, ça glisse. Il n'y avait qu'une chose qui me gênait un petit peu, c'est qu'il y avait une caméra avec un crash box, c'est-à-dire qu'une caméra, ça vaut très cher dans le cinéma, donc ils les protègent avec des caissons en alu, parce que quand ils font de la cascade en bagnole, si la voiture finit dans la caméra, pour ne pas casser la caméra. Sauf que là, il n'y a pas qu'une bagnole, c'est une moto ou un bonhomme. Donc j'avais un peu de mal. Pour moi, c'est abstrait de vraiment tomber à cet endroit-là. Donc j'ai décalé, on va dire, d'un mètre pour avoir une continuité et une glissade qui me permettait d'être à côté de cette crainte de vraiment taper cet obstacle. Mais sinon, après, comme au cinéma, ça s'est passé. Ça te fait pas mal au cœur de casser autant de motos dans ce film? Moi, j'en casse pas beaucoup. Moi, j'en ai cassé bien une sur le circuit. Après, justement, c'était des cascadeurs. Quand il y a la percussion avec c'est l'hypermotard, où là, la fourche, elle va sous le moteur. C'est sans casque. C'est Sylvain Gabé qui s'est occupé de ça. Il a très bien fait ça. Il a atterri dans un matelas par-dessus la voiture. Donc, j'ai pas tout cassé, moi. Je fais attention au matériel. Dans Burnout, le son des twins et des deux temps n'est pas toujours respecté. Est-ce que quand un motard comme toi a son mot à dire, une fois les cascades exécutées, ouais, totalement, et pendant le tournage, je leur disais, moi je veux du réel, je veux du vrai son, je veux pas les erreurs qu'on voit souvent dans les films, où il y a des mauvaises attitudes, mais surtout il y a des mauvais sons par rapport aux motos. Il m'avait dit que ça allait être bon, mais en fait, ce que je vois à la conclusion du film, c'est clair, ça a été changé à des moments, mais c'est pour aller, pour moi, dans la bonne direction, pour que le film soit encore plus agréable à Louis, qu'il y ait plus d'intensité, plus de rythme, et aller dans le sens de l'accélération, en fait.
Alors, un petit commentaire là sur les propos de Serge. Les autres motos qu'on voit dans le film, tout à l'heure, je les ai citées, il y a les motos de la police. En fait, il y a les FJR 1300 de Yamaha. Ouais. Et justement, c'est ce qui a fait que ce film s'est fait, que le réalisateur a fait. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de policiers. On voit les gyrophares. On les voit sur l'autoroute. On les voit quand il manque de se faire serrer par des véhicules de police. Et on les voit dans la cité. À un moment donné, avec la KTM, il doit passer un pont. Et c'est l'émeute dans la cité. Et donc, ils sont suggérés, en fait. On les voit peu. Et alors, ce qui est important, c'est les tournages de nuit. Alors, effectivement, j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure, le Go Fast, il est à moto. Et c'est la moto qui est mise en scène. Et donc, on remonte en fait l'autoroute à contresens. À un moment donné, toute la cascade est tournée. Alors évidemment, l'autoroute, elle n'a pas été ouverte au public, mais elle est faite avec l'encadrement du film. Et donc, il remonte à vitesse normale. Il l'explique très bien dans l'interview. Et ce film, finalement, il est très coloré. Et il y a peu d'éclairage. Il y a quelques séquences qui ont été rééclairées, mais ils utilisent les éclairages ambiants grâce aux caméras numériques. Et c'est l'avantage aujourd'hui des films actuels, c'est d'utiliser du matériel très pointu avec des capteurs très sensibles. Donc les tunnels, les éclairages, les vitrines, alors pas au bord de l'autoroute, mais dans la cité, des vitrines de façade, etc., des commerces, et puis les lampadaires. Donc on retrouve ce rythme avec le soutien. C'est un film sec. Il n'y a pas d'explication. Les séquences, on est au cœur de la scène, on vit avec le personnage et il n'y a pas de fin. C'est un film. Là, en l'occurrence, notre héros, il est toujours en vie à la fin du film, mais il se passe quelque chose. Je ne dévoilerai pas. Donc, c'est à nous de faire l'histoire après. Voilà. Donc, Burnout, il est sorti il y a 7 ans. C'est le troisième film de Yann. Et la moto est superbement bien mise en valeur, surtout dans les courses de superbike.
Très bien, Christophe. Eh bien, écoute, on passe un morceau de musique et puis après, on va retrouver Yves Coutel. Alors là, je recherche si ça va bien se terminer ou pas. Non, ça va mal se terminer.
ça va mal se terminer, mais bon, on vous laisse un petit peu dans le du suspense, un peu, chère auditrice et auditeur.
Hein. Bon, ça flingue aussi quand même dans le film. Hein.
Oui, le héros. Je trouve que tu as été un peu, quand même, tu t'es resté un petit peu.
Je suis resté axé sur la moto.
Oui, la moto.
Je trouve que moi, la moto est bien filmée et il y a des belles scènes, effectivement, à découvrir.
Très bien.
Elle est présente tout au long du film, quand même.
Allez, à tout de suite après le morceau de musique.
Oh yeah, oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Now when I was a young boy, my mother said I was gonna be the greatest pain alive. But now I'm a man, I passed 21. I want you to believe me, honey, I have lots of fun. I'm a man, spell him
spécial cinéma et moto aujourd'hui pour cette toute dernière émission de l'année 2024 du magazine de la moto. Au téléphone, nous avons Yves Coutel.
Oui,
rebonjour Yves.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va. Là, je suis bien installé. Tu vois, je suis près du feu, tranquille.
Voilà, oui. Malheureusement, tu as une grosse grippe. Voilà. Voilà, tu voulais nous parler de Bike Rider.
Oui, je voulais vous
année,
parler
de sortie en 2016.
Quoi ?
C'est sorti en 2016. Non ?
Non, du tout.
Ah, j'ai fait une erreur.
Le film, il est sorti en 2023, donc c'est un film.
Ah, c'est en 2023.
Oui. Ouais, 2023 aux États-Unis, mais il n'avait pu être distribué qu'à partir de juin 2024. Bon, à cause de problèmes, c'était la 20th Century Fox qui distribuait le film, et normalement, et ça n'a pas pu être distribué. Et donc c'est Universal Pictures qui a redistribué le film derrière. Donc il avait été c'est un film de Jeff Nichols, et c'était un projet de Jeff Nichols qui traînait depuis à peu près 5 ans, et il s'est grandement inspiré donc du livre de Jackie Lyons sur les Outlaws de Chicago, qui avait été publié en 67. Voilà, donc c'est à partir de l'histoire vraie, Danny Lyon, il a fait partie, c'est un photographe, donc journaliste, qui est plus connu aussi, qui est connu aussi pour les... J'ai de la musique derrière, moi, je sais pas qui c'est, mais...
Bah, c'est Laurent, Yves, forcément.
Ouais. Donc... J'ai Danny Hunt, c'est journaliste photographe qui a fait vraiment partie de la bande de bikers des Outlaws de Chicago, une des plus vieilles bandes de bikers qu'il peut y avoir aux États-Unis, qu'elle est fondée en 35, je crois, sur la route 66. Et il avait fait une série de photos et des interviews. Il avait, bon, quelque part, infiltré ou pas, il a vraiment fait partie de cette confrérie de motards. Et donc on s'en est largement inspiré pour créer le film qui parle des vandales au Middle West, une bande de motards qui se crée à peu près, alors là, dans les années 50-60, à partir de gens qui veulent faire de la moto, mais c'est plutôt familial et ça évoluera vers la bande de...
Bon, c'est l'histoire d'un club, hein, d'un club moto en fait.
C'est l'histoire d'un club moto, ouais, oui. Exactement. Donc c'est bien fait, c'est vu à partir des interviews donc de Cathy, hein, qui est Cathy Bauer, qui est un personnage qui a existé, qui serait soi-disant décédé juste avant que le film ressorte.
Cathy raconte l'histoire du club, hein, à un journaliste.
Cathy raconte l'histoire du club et sa rencontre avec Benny. Hein, Benny, qui est un membre du club, mais un peu, dirons-nous, un peu indépendant. Et c'est ça que j'aime bien, un peu, quelque part, le gars qui fait partie du club, mais un peu partagé entre les responsabilités qu'il devrait prendre dans le club ou pas, parce que c'est quand même un peu le fils spirituel donc, du président du
président,
club.
Parce que le président, à un moment, lui demande s'il veut devenir... Johnny, s'il veut devenir président, parce que apparemment.
Oui, il dit, bon, ben voilà, il faudrait quelqu'un qui me suive, qui me succède, d'organiser sa succession, quoi.
Et Benny dit non.
Et Benny dit non, et lui, il le voit mieux dans la continuité du club aussi, et il sait qu'il a la force et qu'il peut inspirer les gens, quoi, donc qu'on peut le suivre, parce que c'est ça le problème aussi. Hein, donc, bon, là-dedans, c'est Tom Hardy qui joue le rôle de Johnny, ça c'est... C'est bien aussi de revoir Tom Hardy un petit peu jouer un personnage autre de ce qu'il a fait, hein, dont il pense un peu. Donc c'est pas mal non plus. Et c'est Tom Hardy qui joue le rôle. Et donc on voit ce Benny qui est partagé entre un peu sa soif de liberté. Lui c'est le club, mais c'est aussi la liberté et la moto, la pratique de la moto. Et là on rejoint un petit peu le bouquin dont j'avais parlé un petit peu, qui est « Nous rêvions tous de liberté ». Et je me demande même si, tu vois, ce bouquin, il serait pas grandement inspiré ou documenté, d'ailleurs, aussi avec le livre qu'avait publié donc Dan Lyon en 67. Hein, donc il paraît que d'autres films étaient inspirés aussi de ces récits-là. C'est certain que ça reprend tous les codes qu'on connaît des groupes de bikers, ouais. Des clubs de bikers. Ouais. Hein, on reprend les codes, on explique bien les choses. Ce qui est intéressant, c'est la façon de l'orientation est vue par quelqu'un d'extérieur un petit peu, qui fait partie du club indirectement, qui est la compagne de
Cathy.
Cathy, hein, ouais. qui est la compagne de Benny. C'est ça qui est bien, c'est cette façon de voir un peu les choses. Bon, elle est assez marrante, hein. Voilà, c'est tous des gens qui rêvent de liberté, qui rêvent de s'affranchir des règles, et la première chose qu'ils font, c'est d'en recréer d'autres, quoi. Donc c'est un peu ça, et de suivre une certaine discipline. Et puis ça prend bien l'évolution des clubs qui vont du petit club, enfin du club où les gens ils font ça, ils organisent des courses sur l'herbe, ils organisent des rencontres, c'est presque familial, quoi, on dira. Bon, familial, donc c'est un groupe, c'est un président du club qui dit à Cathy au début, qui lui dit « Bon, tu peux venir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de sécurité, s'il y a un problème, tu m'appelles. Hein, » et puis après, ça s'oriente vers... ça va dégénérer, et notamment avec l'inclusion un petit peu des marginaux, des gens qui sont un peu rejetés, qui trouvent là une raison d'être, une famille, des gens qui reviennent de la guerre, donc... C'est un peu créé par les gens qui ont fait les anciens vétérans de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, quelque part. C'est un peu ces gens-là qui créent le clan. Et c'est un peu après, c'est l'arrivée de tous les vétérans qui viennent du Vietnam. Et on voit aussi dans la bande musicale, on voit toute l'évolution musicale un petit peu des années 50-60 aux années 70, hein, parce qu'on va passer de... On va passer de... Bon, Malish Boy, c'est point de bascule un petit peu. Hein. J'ai passé je me demandais ce qu'on passe sur cette musique-là. Moi, c'est vraiment la séquence du point de bascule. C'est là où on voit tous les... c'est très photogénique. Hein. On voit vraiment de belles motos, des belles images. Le montage, il est bien fait. Et on voit donc toute cette bande qui arrive au ralenti, quoi, en formation, dans la banlieue de Chicago. Et les jeunes qui sont en train de piquer les bagnoles derrière à côté, qui s'arrêtent, qui regardent, qui sont là un peu... Ils aimeraient bien en faire partie, et d'un autre côté, qui vont faire dégénérer un peu ça. Et puis on voit aussi la musique qui va passer de Chico. On reprend la musique aussi de l'Équipée Sauvage. Hein. Il y a le morceau de Chico qui fait partie de la bande originale de l'Équipée Sauvage. On parle du rockabilly, des choses comme ça. Et puis on va finir par les morceaux Down on the Street avec Iggy Pop, qui sont beaucoup plus, et les morceaux qui font après les années 70, retour du Vietnam, et donc qui reviennent aussi avec tout ce qui est drogue et trafic de drogue, parce que toute cette jeunesse-là qui a été complètement chamboulée dans les années 70, elle va glisser sur la drogue, quoi.
Il va falloir, parce que si on n'a plus beaucoup de temps là, il va falloir qu'on passe donc sur la fin du film. Comment ça se passe?
Ah bah, la fin du film, c'est
comment un club devient un gang.
C'est comme un club devient un gang, et puis le fait que les gens, les anciens quelque part, essayent de quitter le club. Et Danny Lyon dit même, moi j'ai quitté le club parce que j'avais ce que je voulais avoir, et je pense qu'il était temps que je le quitte, quoi. C'est tout. Donc en 67 déjà, il sent un peu les choses tourner. Et il fait vraiment partie du club, il fait de la moto et tout. On ne le voit pas en moto dans le film, mais on voit les gens qu'il a pris en photo, les caractères, les personnages qui sont recréés, et cette évolution vers quelque chose de plus mafieux. Okay. Mais c'est pas mafieux, c'est aussi leurs propres besoins, quoi. Ce sont des gens qui consomment et qui, juste comme ça, ils organisent leurs propres besoins. Okay. Ils n'ont pas de quoi vivre, quoi. Donc ils se démerdent, quoi.
Très bien. Et bien... Faut terminer, Yves. Faut terminer le récit.
Bon, le récit du film, c'est happy end quelque part. C'est le fait que Benny va choisir Cathy et va choisir une vie. Malheureusement, il est très affecté par la mort du président du club, et puis il va choisir une vie. Il n'est pas là à ce moment-là. Il peut pas intervenir. Et puis il va choisir la vie, quoi, quelque part. Et c'est aussi la vérité. Hein. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment une histoire vraie, quoi. Donc cette famille, Benny, Cathy, sont partis en Floride, sont partis vraiment dans ce garage, et ils ont eu un fils qui s'appelle Kirk, qui est encore vivant. Cathy serait décédée avant la sortie du film. Danny Lyon l'a retrouvée, et quelque part, elle serait décédée un peu avant. Et puis une histoire marrante, c'est que dans la photo, on le voit au départ, la scène où il est au billard, là accoudé, c'est partir d'une vraie photo. Et le vrai Benny dit au journaliste, il dit, bah, écoute, tu sais la photo que tu as mis de moi et tout ça, c'est pas moi. Il dit, bah non, c'est pas toi, c'est bizarre, moi je pense que c'est toi. Bon. Et l'autre il dit, non, t'as qu'à regarder les tatouages, c'est pas mes tatouages. Donc ça c'est un peu la fin de l'histoire. Quoi.
Merci Yves. Parce que là on est à 10 minutes, parce que donc on doit encore parler de Burt Monroe après, juste après toi, il nous reste à peine 8 minutes.
Ah, Burt Monroe.
Oui, voilà. Donc on te laisse.
C'est un peu l'amiche qui prépare sa quatrième pour aller faire la quatrième.
Voilà. Donc voilà, merci pour nous avoir raconté ce film. Alors,
23, 24,
Jeff Nichols, le réalisateur. Ouais, très bien.
C'est ça.
Voilà, merci. Et puis alors, et prends bien les cachets.
On va avoir la bande originale aussi en disque, okay. Et puis
prends bien des cachets. Voilà. Allez, salut.
Salut.
Voilà, donc bah, il nous reste, on va se dépêcher parce qu'on voulait parler un peu de Burt Monroe. Hein. Parce qu'il y a, j'ai interviewé, ça symbolise bien le film en fait. Après avoir passé des années à perfectionner sa motocyclette, le néo-zélandais Burt Monroe se rend en Utah en 1967 où il compte tenter l'impossible, utiliser sa moto pour établir un nouveau record de vitesse. Voilà, et donc ça se passe, alors en 1957, Monroe établit son premier record de vitesse à Open Beach en Nouvelle-Zélande, poussant cette machine à 210,20 km/h. Attention, à l'époque on est très précis. Hein.
C'est quoi la machine ?
C'est une Ninja Scout. Hein, qui est réalisé à 850 cm3. Ensuite, en 62, il bat son premier record sur le lac Salé de Bonneville en atteignant la vitesse de 288 km/h avec toujours son Indian, forcément. Et en 67, au même endroit. Et à 68 ans, il réussit à battre son propre record avec 295 453 km/h. Ce qui fait de son Indian la plus rapide de sa catégorie. Ce record reste inégalé encore aujourd'hui. Et on passe à l'interview parce qu'on symbolise bien un peu l'atmosphère de ce film.
Secret. 5 minutes de vitesse pure sur un tel engin, ça peut te donner plus d'émotion dans toute une vie.
Bonjour, je viens me faire enregistrer. Monroe, Burt Monroe.
Votre numéro d'inscription ?
Quoi ?
Votre numéro d'inscription, je ne trouve pas votre nom.
Ah oui, vous voulez dire 35. Vous voyez, c'est le numéro qui est écrit sur ma moto, là. C'est mon numéro porte-bonheur.
Vous vous êtes inscrit ?
Non, c'est... Je suis venu justement pour ça. Ils m'ont dit de venir vous voir, Mike et un autre gars.
Les inscriptions sont closes depuis le mois dernier. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est... trop tard.
Quoi, je ne peux pas m'inscrire ? Mais je... Je ne pouvais pas deviner, moi, qu'il fallait s'inscrire avant de venir. J'ai fait un bout de route pour courir, vous savez. Je bouge plus d'ici avant d'avoir fait mon essai. Je veux dire, je viens de Nouvelle-Zélande. Vous vous rendez compte ?
Désolé.
Ça fait une trotte.
Monsieur, ce n'est pas nous qui faisons les règles.
Tel événement nécessite un minimum d'organisation. Le règlement, c'est le règlement. Et tout est bouclé depuis le 31.
Nom d'un chien, j'habite à Invercargill, de l'autre côté de la planète. Comment voulez-vous que je sois au courant de ça ? Je savais rien de tout ça.
Monsieur, ce n'est pas notre problème.
Je pensais qu'il suffisait de venir avec sa moto pour être chronométré et arrêter de m'appeler. Monsieur, je m'appelle.
C'était une erreur de penser ça.
Hé, hey, Jim Moffat, c'est moi, Burt Monroe, s'il te plaît, viens par là.
Je reviens.
J'ai besoin d'aide.
Ouais, Burt, qu'est-ce qui se passe ?
Ces deux messieurs, ils me disent que je ne peux pas participer parce que je ne me suis pas inscrit plus tôt et que maintenant c'est trop tard.
Tu t'es pas inscrit ?
Non, je savais rien, moi.
Tu sais ce que c'est, Jim, les règles sont les mêmes pour tout le monde.
Burt, ça fait des mois que t'aurais pu t'inscrire.
Je savais rien.
D'accord, je vais voir ça. J'essaierai de leur faire changer d'avis.
Dans tes veines, il doit couler de l'or.
ça m'étonnerait. Écoutez, on en reparlera, mais pour l'instant, on peut peut-être le laisser passer le contrôle technique. Ce sera déjà ça de fait, au cas où on trouve une solution.
C'est enfreindre les règles.
C'est vrai.
D'accord.
Et voilà.
Ça y est.
Sois à la hauteur.
Oh, merci, vieux. Vous m'avez fichu une sacrée trouille.
C'est quoi les pneus que vous avez ? On dirait tous sauf des pneus de vitesse.
Et pourtant, c'en est des vrais de vrais.
Vous avez vu toutes ces fissures ? Au bas mot, ils ont 25 ans, ces pneus. Qu'est-ce qui est arrivé à la bande ?
Quoi ?
La bande de roulement de vos pneus, elle est où ?
Je l'ai retirée. J'ai pris un bon couteau et je l'ai retirée. Vous voyez que je suis bien placé pour savoir que ce sont des pneus de vitesse.
De quoi vous me parlez, là ?
C'est simple. Si le pneu est trop lourd, quand vous roulez très vite, avec la force centrifuge, ça vous arrache toute la bande. Ouais, mais plus,
voilà, alors c'est pas l'interview, hein, c'est une prise de son du film. Hein, voilà. Ça symbolise bien
l'ambiance,
comment ce record a été réalisé. Hein. Et alors, vous savez pourquoi le record n'est toujours pas battu ? Parce qu'on pourrait éventuellement le battre hein, dans cette catégorie. Et ben c'est parce que en fait personne ne veut s'attaquer à ce record de Burt Monroe parce que
c'est une légende.
C'est une légende. Alors c'est une légende. Un comme on revient un petit peu au symbole des Easy Rider, tous ces films. Hein. Et là c'est un film qui
se termine bien. C'est bien parce qu'on termine l'émission. Une bonne note, Jean-Yves.
Moi, ça se termine bien.
Ça se termine bien.
Ouais, il tue tout le monde.
Bah, c'est un massacre total.
Et il est tué aussi.
Voilà.
Hein,
donc, et donc, donc, à 68 ans, hein, il va battre encore son propre record sur le lac de Bonneville, là-bas dans l'Utah.
Je te disais tout à l'heure que ça me rappelait Momo. Momo
Maurice,
qui a battu lui-même son propre
record. Ce film, on le trouve encore, hein, vous pouvez facilement le trouver. Normalement, alors c'est 2005, sorti 2005, Bonneville. L'émission se termine. On va peut-être parler un petit peu du calendrier, l'année prochaine.
Et du calendrier.
Oui, calendrier.
Voilà, donc vous pouvez encore nous envoyer vos infos, Motoclub. On va s'arranger, on poussera un peu pour que ça rentre. Et donc n'hésitez pas. Et sinon, la sortie officielle du calendrier, c'est le 11 janvier. Au Trianon, hein, la salle de spectacle qui se trouve sur Village Moto de Seclin. Ça sera à partir de 18h et il y aura bien entendu, comme d'habitude, des motoclubs qui seront présents pour présenter leurs activités. Il y aura un groupe Redline, un groupe de reprise de rock'n'roll qui sent bon la sueur. Et on enregistrera également l'émission. Hein. Donc, vous pourrez, si vous voulez, venir nous écouter, voire nous voir, voire même intervenir à la radio.
Voilà, et normalement une soirée qui devrait bien se terminer.
Avec un petit bout de... Il n'y aura pas de sexe ni de drogue, ne vous inquiétez pas, que du rock'n'roll.
Voilà, l'émission se termine, c'était la toute dernière de 2024, on se retrouve l'année prochaine, le premier dimanche du mois de janvier. Merci Christophe.
Oui.
Merci Christophe pour ce burn-out.
Bon, tout va bien. En tout cas, il y a des super méchants.
Oui.
Super méchant, mais il y a un peu de comédie.
Merci Jean-Yves pour IF.
Justement, c'est un film injustement méconnu.
Oui, voilà, très bien. Et merci pour Easy Rider. Et puis alors, on va remercier notre technicien Laurent. Hein. Oui.
Et on se retrouve, bien sûr, on le remercie pour cette bande-son formidable.
Oui.
Et on se retrouve quand alors?
Donc le mois prochain, j'avais marqué dans
en janvier.
C'est le 5 janvier, dimanche 5 janvier, avec les motards engagés, Christophe et Jean-Yves. Okay. Voilà, on va se passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et bonne année. Et puis et aussi un bon dimanche. Bye.
Salut.